C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Mardi 16 juin 2020, journée nationale de mobilisation et manifestation des personnels soignants hospitaliers pour demander une revalorisation de leur salaire. À Douai, à l'appel de toutes les organisations syndicales, un rassemblement était organisé devant l'hôpital. Docteur Bertolo, praticien hospitalier, président de la communauté médicale d'établissement de l'hôpital de Douai.
La communauté médicale d'établissement, c'est la communauté qui réunit l'ensemble des praticiens de l'hôpital. Je suis élu pour les représenter avec une fonction essentiellement concernant la qualité et sécurité des soins et la mise en œuvre du projet médical. Cela nécessite évidemment des moyens. Il y a un sujet évidemment aussi qui est l'équilibrage des gouvernances, puisque vous savez que le directeur d'établissement a plein pouvoir sur l'hôpital, ce qui est à mon avis actuellement une limite très forte et nécessite une représentation beaucoup plus forte des différentes instances et des différents corps de l'hôpital au niveau décisionnel. À titre personnel, je milite beaucoup pour le binôme cadre de service, chef de service, puisque c'est de là que naissent l'ensemble des projets de l'hôpital.
Le grand rassemblement d'aujourd'hui n'est qu'un point d'étape et fait suite au grand débat nouvellement engagé entre le gouvernement et les organisations syndicales représentatives du personnel.
On a tous compris le rôle important de l'hôpital public suite à la crise Covid qu'il vient d'y avoir. Je ne reviens pas sur l'historique de ces mobilisations, mais ça a quand même commencé il y a plus d'un an, d'abord avec les EHPAD, puis le collectif Interurgence, puis le collectif Interhôpitaux. On dénonce depuis un an, deux ans, le manque de moyens et cette pression économique qu'on a sur l'hôpital. La crise Covid a mis en exergue finalement ce que les praticiens de terrain et les soignants de terrain demandaient. Et je pense que maintenant on attend beaucoup du Ségur de la santé. Et on constate que là, ça fait quand même trois semaines, alors que le diagnostic de l'hôpital public est connu de tout le monde, nous n'avons toujours actuellement aucun signal envoyé par nos responsables politiques concernant les mesures à venir.
C'est pas bon signe ça que le temps se prenne, c'est peut-être que la réforme sera profonde.
Vous avez peut-être raison et j'espère que vous avez raison, mais vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière il y a une réunion qui a été annulée par le comité de pilotage, ce qui est quand même un peu troublant. Est-ce une méthodologie qui n'est pas encore parfaitement huilée? Ou alors est-ce que les moyens alloués ne sont pas encore suffisants? Je répète que le diagnostic de l'hôpital public est connu de tout le monde.
Est-ce qu'on peut répondre à une urgence, par exemple salariale, et à une réforme profonde simultanément?
Il y a évidemment une reconnaissance très forte qui a été faite par les usagers lors de cette crise Covid en applaudissant. Mais c'est notre travail que de prendre en charge les patients. Maintenant, il faut qu'il y ait une augmentation de salaire. Des primes, ce n'est pas suffisant. Il faut une vraie attractivité du personnel soignant, du personnel médical à l'hôpital public.
Aujourd'hui, davantage également de personnel, ça reste nécessaire?
Depuis toujours, c'est très clair. Augmentation des rémunérations, augmentation du nombre de lits, de recrutement et un ONDAM qui s'ouvre avec une augmentation du budget alloué au fonctionnement de l'hôpital.
Au-delà des 12% du PIB?
Moi, je suis médecin, monsieur, je ne suis pas homme politique. Je pense que ce problème doit être résolu par nos économistes. Ce dont je suis certain est ce que la crise Covid a mis en évidence, c'est que l'hôpital public avait besoin de moyens pour répondre à la crise. On y a bien répondu. On a quand même dû déprogrammer l'ensemble des activités chirurgicales et médicales programmées pendant pratiquement deux mois. D'autres systèmes de santé ne l'ont pas fait.
Est-ce qu'on peut penser qu'on peut optimiser l'enveloppe allouée au fonctionnement de l'hôpital plutôt que de l'augmenter?
On nous demande depuis 5 ans de toujours revoir nos organisations et d'améliorer nos parcours. Je pense que ça, c'est plus à prouver. D'ailleurs, on a su se réorganiser en très peu de temps sur l'hôpital pour accueillir nos malades. Mais à un moment, quand vous n'avez pas de lit pour prendre en charge les malades, vous n'avez pas de soignants pour prendre en charge les malades, vous êtes beau vous réorganiser, il faut des moyens. Et à titre personnel, je demande à ce qu'il y ait plus de moyens à l'hôpital public.
Confiant, inquiet?
Évidemment confiant, monsieur, sinon je ne serais pas là. Et je pense surtout que s'il n'y a pas de résultats à la hauteur des demandes, le monde hospitalier bougera encore plus.
Il est plus que temps que tous nous ayons le soutien de notre gouvernement. Ce soutien du gouvernement qui semblait pourtant si bien se dessiner avec le Ségur de la santé. Le Petit Larousse définit le mot Ségur, entre autres, comme ensemble de propriétés essentielles à quelque chose. C'est bien de nous dont on parle. Nous sommes soignants, donc nous sommes essentiels à la santé. Pourtant, la porte se referma bien vite pour les infirmiers. Il a fallu rentrer en passant par la petite porte arrière du fond du jardin et en la forçant pour pouvoir enfin s'asseoir à la table des négociations.
Manifestation des personnels soignants de l'hôpital de Douai le mardi 16 juin. Le docteur Fanny Durig, gériatre, chef de service soins de suite et réadaptation, membre du collectif national Interhôpitaux.
On est très inquiet. Les choses ont changé, ça a été assez magnifique pendant la crise du Covid, où d'un seul coup, on ne parlait plus argent. D'un seul coup, on nous disait, vous avez besoin d'autant d'infirmières dans tel secteur, notamment les secteurs Covid qui demandaient beaucoup de soins et autres, il n'y a pas de problème, voilà les infirmières. Alors, c'est aussi fait parce qu'il y a des services qui ont dû fermer, qui ont dû arrêter leurs activités, notamment la chirurgie programmée, ce genre de choses. Mais d'un seul coup, on nous a parlé qualité des soins, sécurité des soins, et c'était honnêtement magnifique à vivre. Et voilà. Revenir en arrière, c'est pas facile. Revenir en arrière, c'est revenir à faire des tableaux d'activité pour mesurer la rentabilité. C'est revenir au ratio soignant antérieur. Or, on a bien vu là que le fait d'avoir un peu plus d'infirmières ou d'aides-soignantes par service permettait que les patients soient mieux pris en charge et que c'est quand même ça pour ça qu'on est là et qu'on se lève le matin. Donc c'est surtout là-dessus. Effectivement, il y a le Ségur de la Santé qui s'est mis en place. On pourrait se dire, bon, ça y est. Il y a eu le discours de M. Macron également à Mulhouse. Enfin, les choses sont prises en considération, on y va. Et finalement, on a l'impression qu'on est toujours dans l'hésitation, qu'on est toujours dans... On compte. Alors, je sais bien que l'argent n'est pas magique, hein, c'est toujours la grande phrase de nos politiques, mais il faut savoir où on met le curseur et où sont les priorités, et on n'est quand même pas certain qu'elles soient à ce jour sur la santé et, les moyens nécessaires pour l'hôpital public.
Donc, dimanche, quand le président nous dit « on n'a pas à rougir », je n'ai pas à rougir de la façon dont nous avons géré la crise, il a en partie raison, le tout c'est de ne pas avoir à rougir de ce qui va se passer demain.
Oui, puis il faudrait. Le problème c'est qu'on doit bien rougir de ce qui s'est passé avant. Il a raison dans le sens où dans les hôpitaux, alors je parle des hôpitaux parce que c'est ce que je connais, hein. La médecine de ville a fait son travail également, mais nous dans les hôpitaux, on a relevé le défi, je pense. En tout cas, à Douai, on s'est réorganisé très très vite. Le plan blanc, ça a été un dimanche soir, le lundi, tac, tout était organisé. Tout le monde a participé, toutes les strates de l'hôpital, aussi bien médicales, soignantes, non-soignantes, administratives, les directeurs. Enfin, il faut être honnête, hein, tout le monde a très bien participé à cette espèce d'émulation collective. Maintenant, c'est demain. C'est à partir de cet événement qui est tragique et en même temps qui nous permet de mettre le doigt sur les manquements de l'hôpital public, qu'est-ce qu'on fait et où on met le curseur, quel est le paradigme à venir et comment on s'oriente.
Que de demander une augmentation de salaire, c'est quoi? C'est rendre le métier attractif ou c'est simplement reconnaître le niveau de compétence de tous ces personnels?
Je pense qu'il y a vraiment les deux. Si vous voulez, aujourd'hui, on l'a déjà dit, les infirmières en France, quand on regarde leur salaire moyen, sont d'abord, elles ont un salaire moyen qui est inférieur de 10% au salaire moyen français. C'est quand même bizarre pour une profession qu'on vient de louer pendant des mois. Elles ont leur salaire au niveau des pays de l'OCDE, c'est 28 sur 33. Donc c'est quand même vraiment surprenant. Bon. Le fait est qu'aujourd'hui, quand on a des postes vacants, personnel non médical, on n'a pas forcément d'attractivité. Les gens ne veulent pas venir travailler à l'hôpital public. Les médecins, je parle aussi de ceux que je connais dans le privé, c'est entre 1,5 et 3-4 fois le salaire. Donc, il n'y a pas que le salaire qui compte. Enfin, clairement, on ne fait pas ce métier-là pour ça, mais ça joue. L'organisation du travail peut être différente également. Donc, il faut, si on veut, je pense que les cerveaux ne fuient pas, rendre attractif l'hôpital, et ça passe par une revalorisation salariale. Il n'y a pas que ça. La gouvernance, le fait que les décisions au niveau de l'institution puissent être partagées entre et des médecins, et des soignants, et des usagers, et un directeur, parce que les compétences administratives, on ne les a pas toujours et eux n'ont pas les compétences médicales. Enfin, vous voyez, je pense qu'on doit tous se compléter pour prendre des décisions ensemble. Et à ce jour, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. parce que la loi HPST fait que c'est le directeur qui est responsable juridiquement de l'hôpital, donc forcément c'est lui qui tranche à la fin. Ça, ça fait partie des revendications et qui permettent aussi, je pense, si elles aboutissent, de rendre attractif l'hôpital. D'un seul coup, on va vous demander votre avis, mais votre avis compte en plus, parce que c'est quand même ça qui est important.
Sa priorité, c'est quoi? C'est le retour à l'équilibre des comptes aux responsables de l'hôpital?
Je pense qu'il est entre le marteau et l'enclume. Il a besoin d'une forme de rentabilité. J'irais surtout, en tout cas, de déficit contrôlé, plutôt, peut-être. Et en même temps, il est garant de la sécurité des soins et de la qualité des soins, au même titre que nous. Donc, il ne faut pas penser que nos directeurs pensent que au côté rentable. Le problème, c'est que c'est quand même ça qu'on leur demande au niveau des ARS et au niveau du ministère. Et donc, c'est là-dessus qu'ils rendent des comptes. Et eux, ils sont fonctionnaires. Ils ont aussi vraiment des comptes à rendre à ce niveau-là, au plus haut niveau de l'État.
Qu'est-ce que vous attendez comme première annonce très forte qui devrait très vite arriver pour vous rassurer?
Je pense que si la demande des 300 euros supplémentaires par mois net pour notamment les bas salaires de l'hôpital était annoncée, déjà voilà, on se dirait, on peut commencer à espérer que le travail portera ses fruits.
Le grand rassemblement d'aujourd'hui n'est qu'un point d'étape et fait suite au grand débat nouvellement engagé entre le gouvernement et les organisations syndicales représentatives du personnel. Sans surprise, la crise du Covid a démontré les difficultés de l'hôpital, ses limites, et particulièrement en matière de moyens matériels et humains.
Présent également aux côtés des soignants hospitaliers de Douai à l'occasion de ce rassemblement le mardi 16 juin, Frédéric Chéreau, le maire socialiste de Douai, candidat à sa réélection le 28 juin prochain, est président du conseil de surveillance de l'hôpital de Douai.
C'est le maire qui sait que les problématiques de santé sont très importantes dans une ville comme Douai, dans un territoire comme le bassin minier. Et c'est le président du conseil de surveillance qui se dit que maintenant que, voilà, pendant 3 mois, on a vu que ce sont les services publics qui ont tenu le pays, qu'on a vu que l'hôpital public a été au premier rang. C'est, je dirais, la nation, le pays qui a des comptes à rendre à l'hôpital, qu'on a pas mal maltraité ces dernières années. On a baissé les moyens, on a toujours essayé de faire croire que l'hôpital coûtait trop cher. Je crois qu'aujourd'hui, il faut reposer le débat sur la table et se dire que pour une priorité comme la santé, non, ça ne coûte pas trop cher, c'est une volonté de notre pays, c'est une volonté des habitants et on a besoin de mettre sur l'hôpital les moyens nécessaires.
Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas entamé la démarche justement avec le Ségur de la Santé qui s'est ouvert?
Moi, je pense que c'est l'occasion, effectivement, de mettre un certain nombre de demandes, de revendications sur la table. J'ai participé moi-même au Ségur de la Santé. J'ai envoyé une contribution de plusieurs pages il y a quelques jours. Et je pense que malgré tout, des rassemblements comme celui-ci montrent la détermination de tous ceux qui tiennent au service public, de tous ceux qui tiennent à l'hôpital public, pour que le Ségur de la Santé ne soit pas simplement une mascarade, un petit tour de piste, mais l'occasion de penser à un avenir durable pour l'hôpital public et peut-être de repenser complètement notre système de santé.
S'il fallait retenir 4 priorités dans vos propositions?
La première priorité, c'est défendre l'hôpital public, le financer suffisamment, le sécuriser. Parce que c'est lui qui, quelque part, est le dernier rempart. C'est lui qui assure l'expertise maximum du système de santé, c'est lui qui assure le système des urgences et qui prend tout le monde aux urgences. Mais il ne faut pas faire que ça. Ça, c'est la première priorité, mais il faut aussi penser une santé qui s'organise autour des vrais défis de notre société, surtout dans le bassin minier. Qu'est-ce qu'on fait pour les maladies chroniques? Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher les gens d'être malades ou empêcher les gens d'aggraver leur maladie? Le but, quand on a un diabète, une insuffisance cardiaque, des problèmes comme ça, c'est pas d'aller à l'hôpital tous les 4 matins pour des moments de crise. C'est de savoir vivre avec sa maladie, de la réduire et de pouvoir rester en bonne santé. La troisième priorité, c'est de travailler en lien avec la médecine de ville. L'hôpital et la médecine de ville sont 2 facettes d'un système de santé qui doit s'organiser au niveau territorial. L'hôpital ne doit pas vivre tout seul dans sa tour d'ivoire et nous, ici, à l'hôpital de Douai, on a beaucoup travaillé là-dessus. Le lien avec la médecine de ville, le lien avec les infirmiers, infirmières, avec les pharmaciens, mais aussi avec les associations de quartier. Il faut vraiment un système de santé qui irrigue tout le territoire, qui infuse au plus près des habitants. Aussi pour aller chercher tous ceux qui ne recourent pas assez aux soins, qui se soignent quand il est trop tard. Et la 4e priorité, ce serait de rendre leur place aux élus. Dans un hôpital, aujourd'hui, les élus ont un strapontin. Ils sont au conseil de surveillance, un organisme qui n'a strictement aucun pouvoir, ça n'est plus un conseil d'administration. Pour l'organisation de la santé sur un territoire, alors même que c'est quelque chose de fondamental, que c'est un sujet dont les habitants nous parlent au quotidien, qu'il faut faire le lien avec les associations de quartier, avec le sport, avec le logement, etc., les élus devraient être la cheville ouvrière d'une politique de santé sur les territoires. Et on a presque l'impression que l'ARS les regarde avec une certaine crainte, parfois une forme de mépris. Voilà, il faut rendre leur place aux élus, au cœur de ce sujet républicain qui est la santé.
Aujourd'hui, la tarification à l'acte, c'est quelque chose qu'on doit abandonner, selon vous ?
La tarification à l'activité, en fait, elle a créé énormément de problèmes. Deux problèmes, c'est que d'une part, elle encourage les hôpitaux à multiplier les actes, à parfois réhospitaliser, à faire monter des urgences dans les services des gens qui n'ont pas forcément besoin d'y entrer. Je ne dis pas que les médecins font ça sciemment, mais c'est une pression de l'institution, c'est une pression du ministère et de l'ARS, paradoxalement, à sur-hospitaliser pour multiplier la tarification. Le deuxième problème, c'est que les médecins, c'est des soignants. Ils ne sont pas là pour remplir de la paperasse, ils ne sont pas là pour cocher des cases en disant ben, « ça c'est telle pathologie, ça doit être tarifié comme ça ». Ce n'est pas le métier des médecins de remplir une fiche de tarification. Du coup, la vraie solution, c'est un financement de l'hôpital sur des objectifs. Quels sont les fondamentaux de santé du territoire et vers quoi on veut aller? Quelles sont les améliorations de la santé des habitants qu'on veut viser? Et quels sont aussi peut-être les objectifs en termes d'organisation? Peut-être qu'on peut bonifier les financements si l'hôpital travaille mieux avec la ville, si l'hôpital travaille mieux sur la prévention, qui est la grande oubliée de la politique de santé. Voilà, un financement sur objectif en fonction de la situation sanitaire sur le territoire, c'est sans doute ça, la santé de demain et le financement du système de demain. Certains pays s'y sont mis et ça marche.
Dernière question, optimisation ou augmentation des moyens donnés à l'hôpital ?
Je crois qu'aujourd'hui, la France dépense 12% de son PIB pour la santé, ce qui est tout à fait normal, moyen, naturel dans un pays de notre niveau de développement. Il faut assumer aussi que c'est une priorité majeure pour la population, sans doute la numéro 1. Il faut assumer que nous vieillissons, et que les exigences de la population en termes de santé sont de plus en plus fortes. Finalement, les gens ne se soignaient pas assez il y a 10-20 ans, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne se soignent pas assez. Donc qu'on dépense chaque année un petit peu plus pour le système de santé, ce n'est pas le signe que l'institution est dépensière, c'est le signe que c'est une priorité de plus en plus importante pour notre population. Donc il faut l'assumer. Et puis dans notre système de santé, est-ce qu'on ne dépense pas énormément, finalement, justement, pour... acheter des médicaments, acheter des machines à des grosses entreprises dont on ne discute jamais les tarifs et qui font énormément d'argent avec les moyens de la CPAM.
Et aujourd'hui, ce que réclament ici ces personnels de santé, c'est une augmentation de leur salaire. Ça, c'est légitime selon vous ? C'est nécessaire ?
Mais je pense notamment pour les infirmiers et infirmières, les aides-soignants et aides-soignantes, quand vous regardez comment se situe le salaire d'un infirmier ou d'une infirmière par rapport au salaire moyen dans un pays, dans l'OCDE, la France est en queue de peloton. Donc, par rapport aux autres métiers, c'est un des pays qui traite le moins bien ses infirmiers et ses infirmières. Alors même que de plus en plus, les infirmiers et infirmières font des gestes qui, il y a 40 ans, 50 ans, étaient des gestes de médecins. C'est la même chose pour les aides-soignants et aides-soignantes. Et puis, il faut regarder aussi tous les personnels techniques. Moi, je veux donner un grand coup de chapeau, par exemple, à tous les personnels du bio-nettoyage. Un hôpital ne peut pas tourner s'il n'est pas nettoyé. C'est des personnels qui sont souvent dans des contrats précaires, qui sont dans des horaires décalés et qui font un travail absolument indispensable. Et puis, se préparer enfin et surtout aux prochaines épidémies, aux prochaines crises qui vont arriver. C'est absolument scandaleux que notre hôpital n'ait pas été préparé, alors même que des épidémies ont eu lieu les années précédentes dans d'autres pays, qu'on savait que ça arriverait un jour ou l'autre en France, il n'y avait tout simplement pas de masque, il n'y avait pas de blouse. Si je vous disais qu'à Douai, moi j'ai pris mon téléphone pour appeler des entreprises, pour appeler Leroy Merlin, pour aller chercher dans les stocks de la ville, parce qu'on était parfois à 2 ou 3 jours près de stock de masques à l'hôpital. Dans un pays comme la France, c'est tout simplement sidérant et scandaleux.
Hôpital de Douai, mardi 16 juin, manifestation des personnels soignants hospitaliers.
Reportage.
Bonjour, je suis Xavier, je suis aide-soignant à la maison de retraite du centre hospitalier de Douai.
Bonjour, moi je suis Gabriel, je suis aide-soignant aux urgences du centre hospitalier de Denain.
Ah oui, vous êtes ici pour soutenir le centre hospitalier de Douai aussi hein.
Non, c'est une grande journée de mobilisation et plutôt que d'éviter de faire des petits regroupements, on a ciblé quelques hôpitaux. J'étais à Valenciennes et j'arrive de Valenciennes et là après nous partirons sur Lille.
Et quel est l'objectif là aujourd'hui de ce rassemblement devant le centre hospitalier de Douai ?
Alors ce rassemblement, c'est un premier rassemblement, je dirais, c'est pour prendre un peu la température du mouvement social post-Covid. Il y a quelques semaines encore, on était les héros, on était applaudis à 20h sur tous les balcons. Donc le mot d'ordre, c'était aussi d'essayer de joindre la population à notre mouvement et de dire « vous nous avez applaudis pendant toute cette période de crise, qui je l'espère touche à sa fin. Et ben maintenant, il est temps que ce mouvement se traduise dans les faits. On organise un premier rassemblement, montrer que vous êtes avec nous et plus seulement sur les balcons à 20h, mais également également dans la rue, parce que l'hôpital public ne se défend pas sur les balcons à 20h, il se défend dans la rue, dans les manifestations, avec des actions concrètes.
Et malgré les discussions en ce moment, au niveau du gouvernement et ce qui se passe, c'est montrer aussi que vous êtes là, toujours, à refaire les mêmes revendications d'avant le confinement.
Oui, tout à fait, parce que le Ségur de la santé, c'est bien, c'est beau, ça part d'un bon sentiment, mais on voit tout de suite qu'il n'y a pas de contenu. Il y aura des augmentations de salaire, oui, peut-être, mais pas autant que ce que vous avez demandé. Est-ce qu'il y aura des moyens? Oui, peut-être, mais pas autant que ce que vous avez demandé. Nous, on voit très bien que pendant ce temps-là, le contrat de retour à l'équilibre financier, il est toujours en cours, on parle toujours de fermeture de lits, etc. Donc c'est bien beau de gesticuler de la main gauche, mais n'oubliez pas, on regarde aussi ce que vous faites de la main droite.
Et vous, c'est la même situation du côté de Denain ?
Ouais, les situations de tous les hôpitaux sont à peu près identiques, hein, donc mon collègue a bien résumé. Maintenant, le Ségur, je suis pas sûr qu'on écoute énormément les soignants. D'ailleurs, beaucoup de soignants ont été exclus du Ségur de la santé, donc... Voilà, c'est bien, ça me rappelle un peu le mouvement Gilets jaunes. On crée des débats, mais à la fin, qu'est-ce qui tombe ? Pas grand-chose. Moi, on nous a considérés comme des héros. Ben, j'ai mis ma cape avec tout ce que les fonctionnaires ont perdu depuis 40 ans, c'est-à-dire 20% de salaire, voilà, avec le gel des salaires. Donc, ben, vous voyez, une revalorisation du point d'indice, c'est le minimum pour les soignants. Et quels que soient les soignants, quels que soient les hospitaliers, que ça soit soignant ou pas, parce qu'on on était tous là, et on a su faire front malgré les fermetures de lits, malgré tout ça, on a fait front. Maintenant, ça fait déjà plus de 2 ans que les hôpitaux luttent, on demande des moyens depuis quelques années, et on les a toujours pas, donc voilà.
Et comment ça s'est passé pendant cette période de crise, pendant le confinement, pour vous ?
Eh ben, ça s'est passé ben, comme dans beaucoup d'hôpitaux français, on a accueilli pas mal de cas Covid. On a des salariés qui ont été touchés, des salariés qui se sont retrouvés en réanimation aussi. Voilà, parce que faute de moyens au départ, on ne nous donnait pas de masque, on ne nous donnait pas ça, on ne nous donnait pas ci. Les surblouses, il fallait les fabriquer. Donc bah, maintenant, il y a les moyens. Mais au départ de la crise, il n'y avait pas les moyens.
Je me permettrai de rebondir sur les propos de mon camarade. On a des revendications depuis des années. On a l'impression qu'on va commencer à nous donner un petit quelque chose, mais on n'est pas dupes non plus. On voit bien qu'on est en train d'organiser en fait le déficit de la sécurité sociale avec un tas de transferts de charges qui vont arriver sur la CADES. La CADES qui est la caisse qui est censée gérer en fait les dépenses de santé. On voit bien que le gouvernement transfère énormément de charges sur la CADES. Et ces exonérations de charges, que je n'aime absolument pas appeler exonération de charges, mais exonération de cotisations sociales, présentées comme ça, c'est totalement différent. C'est la solidarité nationale. Donc ça va être transféré sur cette CADES. Donc en fait, c'est encore un cadeau au patronat et aux entreprises, puisque les charges qui vont être transférées sur la CADES, elles vont en fait être payées par la CSG, la RDS, etc. Donc en fait, c'est le contribuable qui va payer le cadeau qui est fait aux entreprises sur l'autel de « on ne doit pas sacrifier les emplois », etc. Donc c'est encore un cadeau qui est fait au patronat et au capital. Et ça va être financé par vous et moi, par le biais de la CSG, de la CRDS.
Et pour vous, comment ça s'est passé à l'EHPAD durant cette période ?
Alors on va dire que ça n'a pas été magnifique dans un premier temps. Après, une fois n'est pas coutume, je vais dire que la crise a été à peu près bien gérée à l'EHPAD et au centre hospitalier de Douai. Alors c'est pas mon habitude d'encenser la direction, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. On peut dire que ça n'a pas été trop mal géré. Maintenant on va voir, on est en pleine négociation sur les copiles carrière, voir ce qu'on va pouvoir en tirer. Aujourd'hui, quand on voit qu'on propose à un aide-soignant de faire d'abord 4 ans de CDD, 5 ans de CDI, avant de pouvoir envisager une titularisation, si dans 9 ans, la fonction publique hospitalière existe encore. Moi, je me vois mal dire à un nouvel embauché qui arrive, bah écoute mon gars, tu vas faire 4 ans de CDD, 5 ans de CDI et peut-être que tu seras titulaire au bout. C'est inadmissible quand vous avez des charges à payer, des crédits, des maisons, etc. On ne demande pas la lune, on ne fait pas l'aumône. On demande simplement que notre travail, sa pénibilité soit reconnue parce que n'oublions pas aussi qu'on a enlevé la pénibilité à nos professions. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. On était les héros, mais on ne sera pas les couillons demain, excusez-moi du terme.
On parlait beaucoup des cas et du nombre de cas des gens atteints du Covid-19. Est-ce qu'il y a des personnels soignants qui ont été atteints aussi ?
Alors pour l'EHPAD, je ne peux pas vous dire grand-chose, à part qu'on n'a pas eu de cas avérés de Covid à l'EHPAD et qu'on n'a pas de soignants qui ont été contaminés. Moi, comme je ne travaille pas sur le MCO, mais sur la partie EHPAD, je pense que je ne suis pas la personne qui peut répondre à cette question. Donc je ne veux pas dire de bêtises.
Et vous, du côté de Denain, personnel aussi, avec beaucoup de précautions, est-ce qu'il y a eu quand même des personnels soignants atteints?
Oui, il y en a. Alors, on n'a pas le nombre exact. Au jour d'aujourd'hui, il y a 45 cas avérés. On a deux soignants qui ont été en réanimation. Donc, oui, on n'a pas eu de décès. C'est la seule satisfaction au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de soignants décédés. On a réussi à ce que les agents soient pour l'instant en accident de service parce qu'on n'a toujours pas eu de reconnaissance en maladie professionnelle. Annonce de M. Macron il y a maintenant presque 2 mois. Le Covid-19 n'est toujours pas reconnu en maladie professionnelle pour les hospitaliers, alors que c'était une de ses annonces.
Alors, vous êtes terminé, la suite c'est quoi après ce mouvement d'aujourd'hui?
Eh bien, les mardis de la colère vont continuer parce qu'on ne pense pas qu'on va obtenir gain de cause aujourd'hui. Donc, on peut déjà vous annoncer les mardis de la colère au moins jusqu'au 14 juillet. Puis, je pense qu'au 14 juillet, on ira tous à Paris puisque M. Macron voulait un défilé de soignants. Mais je pense qu'on ira tous, mais peut-être pas avec les mêmes intentions que ce que lui voulait. On veut bien être les héros, mais comme mon collègue disait, pas les couillons. Voilà.
Alors Carole, je travaille en consultation externe, aide-soignante.
Agathe, infirmière en consultation depuis 23 ans.
Peggy, aide-soignante en consultation externe.
Dorian, aide-soignante en consultation externe.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ici exactement devant l'hôpital de Douai? Qu'est-ce que vous revendiquez?
Une revalorisation des salaires.
Augmentation du personnel.
Augmentation du personnel et qu'on soit enfin reconnu à notre propre valeur. Reconnu surtout.
On entendait dans les discours, il y a vraiment des salaires qui sont bas par rapport à la moyenne nationale même. Et c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est valorisé le métier d'infirmière.
Le métier d'infirmière n'est pas valorisé du tout. Je suis restée en B, donc j'ai choisi de rester en B pour avoir la pénibilité. Si nous en aide la pénibilité, ça ne va pas le faire. J'ai choisi de gagner moins par rapport à mes collègues, c'est pour partir plus tôt. Et que ma pénibilité soit reconnue. Si nous l'enlève, ça ne sert à rien.
Et donc, que comptez-vous du Ségur, avec ce qui se passe en ce moment
Que tout soit maintenu, une revalorisation déjà des salaires, qu'on soit reconnu à notre propre métier, soit reconnu. Enlever, maintenir la pénibilité, avoir plus de personnel, plus de lits, du matériel, qu'on travaille au moins dans des conditions décentes.
Et comment ça s'est passé alors durant cette crise du Covid-19 pour vous? Est-ce qu'il y a eu les horaires aménagés, plus de travail ou une autre organisation en tout cas?
Honnêtement, en consultation, on a une bonne gestion. On a pris les urgences ambulatoires pour décharger les urgences. On s'est soutenu, on était là quand il fallait, on a fait notre travail.
Moi j'ai changé 4 fois de service depuis le début du Covid.
Vous avez fait quel service par exemple?
Alors je suis retourné aux urgences. Des urgences, j'ai été transféré aux consultations pour les urgences ambulatoires. Ensuite je suis allé dans le secteur Covid au niveau des urgences. Et là actuellement je filtre les gens au niveau des consultations avec prise de température, questionnaire. Donc c'est une grosse journée.
Est-ce que ça a impacté aussi peut-être la vie personnelle, avoir peur à la maison de retransmettre le virus par exemple?
Oui.
Ça s'est passé comment pour vous cette situation?
Très difficile. Quand le mari a peur à la maison, c'est très difficile.
J'ai ma femme qui est infirmière et on a ressenti que le voisinage autour de nous, au départ, ils étaient d'accord pour on va garder vos enfants. Et puis après, quand l'épidémie a augmenté, on a été mis un peu de côté.
Peur de nous côtoyer tout simplement.
Peur de nous de transmettre à notre famille.
Le mal n'arrivera par nous. Donc ça, on l'a entendu.
Et surtout qu'au début, on n'avait pas les moyens nécessaires, masques. Et actuellement, on manque de manugel, de spray, de lingettes pour faire la décontamination des bureaux. C'est scandaleux.
On est réquisitionné au niveau matériel. Et donc, c'est vrai qu'on les a au compte-gouttes. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas, mais c'est vraiment au compte-gouttes. Donc c'est très difficile de travailler comme ça.
Il y a eu un appel couturière, justement, si j'avais vu, pour des surblouses. C'est ça, il y a besoin de mobiliser des gens, alors, des couturières.
Ben, les blouses, les surblouses sont arrivées, donc ça a été bien utile dans les services où, effectivement, dès le départ, où il en manquait. Mais c'est vrai qu'au niveau, mais même Manugel, les solutions hydroalcooliques, les masques, au début, on n'avait pas le droit d'en mettre. Donc c'était très compliqué. Hein. Début mars, on ne pouvait pas en mettre. Donc là, maintenant, on a notre quota, on a nos enveloppes, on a deux masques par jour. Donc maintenant, ça va mieux. Mais c'est quand même encore très compliqué.
Et merci les bénévoles quand même, parce que sans eux, on serait toujours en manque de matériel. Mais le matériel aurait dû être là dès le départ. Moi, je pense que c'est une erreur du gouvernement. Une mauvaise gestion des stocks.
Vous vous souteniez entre collègues, j'imagine, pour ces difficultés, pour pouvoir tenir le coup, entre guillemets.
Heureusement qu'on est là, on se soutient. Oui, on a une bonne équipe, donc oui, on se soutient entre nous, même dans tout l'établissement, on se soutient. Heureusement. Il a joué avec
la vie des gens. Alors on parle beaucoup des cas du Covid-19, on voyait hein, dans le Nord, dans la région Hauts-de-France. Est-ce que il y avait la peur d'avoir des cas auprès du personnel soignant? Est-ce que ça a été le cas justement? Il y a eu des gens atteints du personnel?
On a eu des suspicions dans le service, oui. Donc les gens
ont eu des maladies pendant un mois. J'ai vraiment eu tous les symptômes du Covid, sauf peut-être un ou deux symptômes, mais franchement j'étais très très fatiguée. Impossible de recommencer à travailler. J'ai eu ma sérologie il n'y a pas longtemps, donc elle est négative. J'ai fait mon scanner aussi thoracique, c'est négatif aussi. Mais c'était quand même anxiogène à l'idée de se dire on aurait pu quand même être contracté par la maladie.
Est-ce qu'il y a eu un dépistage massif auprès du personnel, justement, pendant le confinement?
Ça commence maintenant.
Ah oui, pas pendant la période de crise.
Tout au début, non. Alors franchement, aux urgences, ils étaient carrément complets, ils avaient beaucoup de travail. Et nous, non, il n'était pas question d'avoir des dépistages dès le début. Mais là, ça commence un petit peu à revenir. On fait des sérologies, on fait des tests.
La médecine du travail commence à dépister le personnel là depuis une semaine. Donc tout le monde va y passer, si les gens le veulent, bien sûr. C'est sur le volontariat du personnel, s'ils veulent être dépistés, ils seront dépistés. Donc ça a commencé, moi j'ai été hier, donc ça commence.
On sécurise en fait, quelque part, on est quand même moins anxieux, parce que bon, forcément, avoir traversé quand même cette période, c'était pas facile pour nous tous, quoi.
À court terme, qu'est-ce que vous attendez surtout?
À court terme, qu'on soit reconnu, enfin, et qu'on soit payé mieux, parce que quand on voit notre salaire, ça fait mal au ventre par rapport à une infirmière qui va bosser en Suisse ou en Belgique. Après, moi, je comprends hein, toutes les jeunes diplômées qui font leurs écoles dans le coin, dans le Nord-Pas-de-Calais. Elles vont toutes travailler en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne. Je les comprends, honnêtement, parce que les conditions de travail sont beaucoup mieux. Elles ont plus de congés, plus de RTT, et elles sont mieux payées. Donc, je les comprends très bien. Mais après, moi, j'ai choisi de travailler au centre hospitalier, parce que j'ai la foi, je suis centre hospitalier, je soignais tout le monde avec une égalité pour tout le monde. Mais il faut aussi que nous, on soit payés en conséquence. Sinon, c'est pas honnête pour tout le monde. Tout augmente. La vie quotidienne augmente pour tout le monde. Quand on va faire nos courses, nos caddies, quand on passe à la caisse, ça augmente, mais nos salaires n'augmentent pas. Donc au bout d'un moment, il faut que tout le monde soit revalorisé. Mais tout le monde, que tous les salaires soient revalorisés.
Mais vous voyez d'aide-soignante ?
Une aide-soignante, moi, depuis juillet 1997, je travaille à l'hôpital à temps plein. J'ai jamais pris de 80, je suis à 1 680 € par mois, à temps plein, depuis 23 ans de fait.
Travailler aux urgences, moi, j'avais plus de 200 heures sup par an. Donc, imaginez le nombre de... On est en 120 au niveau paramédicaux, donc multipliez ça par 120, donc ça fait beaucoup. On préfère les avoir payés que...
Mais bien payés.
Donc en attendant, la mobilisation continue, c'est ça?
C'est ça, on continue. Tant qu'on n'a pas ce qu'on a demandé, on ne lâchera rien.
Vous allez... On ne lâchera rien.
Je pense qu'on a prouvé par nos actes ce que nous valons et nous revendiquons tout ça. Il est grand temps de changer.
Qu'on nous entende surtout. Qu'on nous entende.
C'est bien beau de nous avoir applaudi à 20h, mais après il faut nous soutenir derrière. Et là, si le peuple ne nous soutient pas, c'est maintenant qu'il faut qu'il nous soutienne. Sinon, ça ne sert à rien. Les applaudissements ne servent à rien dans ces cas-là.
C'est tout.
Le message est passé. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci beaucoup.
Bonjour. Je peux vous poser quelques questions. Hervé Dujardin, journaliste Radio Scarpe Sensée.
Oui.
Bonjour, qui êtes-vous ?
Bonjour. Une aide-soignante d'EHPAD privé.
Un EHPAD privé dans le Douaisis ?
Dans le Douaisis.
Et sur votre blouse, EHPAD, ni oubli, ni pardon, public privé, même galère, dignité pour nos aînés.
Voilà.
Pensez être les oubliés du Ségur ?
Voilà, nos résidents et le personnel, nous avons été maltraités durant cette pandémie. Par manque de masques, de matériel, malheureusement, le virus est entré dans l'établissement et a fait des ravages. Après, on avait des masques, on avait des surblouses, mais il était trop tard.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez ?
Aujourd'hui, je suis là pour sortir ma colère, en fait. Parce que depuis mars, je suis en colère et c'est la première fois que je manifeste. Je vais avoir 53 ans. Mais voilà, je ne pouvais pas faire autrement aujourd'hui, parce que trop, c'est trop. On a eu une douzaine de décès, 34 contaminés chez les résidents, plus d'une quinzaine dans le personnel au moment où ça a été testé. Donc c'est certainement même plus important.
Vous êtes accompagné justement pour vivre tout ça, je pense qu'on a...
Au niveau de la structure, non, pas du tout. Pas du tout.
Il n'y a pas une cellule d'écoute ou...
Si, on a des numéros de téléphone avec des psys, mais bon, enfin, faut faire la démarche personnellement. Au sein de la structure, non, on n'a aucun accompagnement.
Qu'est-ce qui doit changer dans la structure ?
Avoir plus de moyens pour avoir déjà plus de moyens humains, plus de personnes, parce que les subventions ne sont pas assez importantes. Enfin, nous, dans la structure, il y a plus d'ASL, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent de l'entretien des locaux, que de soignants. Enfin, moi, ça me semble pas logique. Apparemment, c'est les subventions, ce qu'ils donnent pour les soignants. Voilà. Donc là, il y a le retour à la normale qui est arrivé parce que le Covid a quitté l'établissement. Mais on repart dans les conditions d'avant le Covid. Aucune leçon n'a été tirée du drame qui s'est passé dans les EHPAD. Pour l'instant, il n'y a aucun changement. Donc on retourne à des conditions terribles où on s'occupe d'un résident en 5-7 minutes. Enfin, c'est horrible.
Vous faites partie de ces travailleurs dont on ignore finalement le travail tant qu'on n'est pas confronté à la réalité de l'EHPAD ?
Oui, c'est ça. En sachant que je ne suis pas syndiquée, je ne fais partie d'aucun syndicat, donc je suis vraiment là ici à titre personnel, parce que j'avais besoin personnellement de pouvoir exprimer... ma colère. Je pense que ça va me faire une thérapie aussi.
Vous y pensez à vous syndiquer ou pas maintenant, aujourd'hui ? Est-ce que ça ferait sens ?
Non, non, non.
Pourquoi ?
Non, parce que je ne veux pas être étiqueté d'un syndicat ou de l'autre. Non, non. Je veux rester libre de mes choix et de mes actions et assumer ce que je fais et ce que je dis. De ne pas suivre un ordre syndical, de faire ci, de faire ça, ça ne m'intéresse pas.
Nous sommes 28e des pays de l'OCDE pour les salaires des paramédicaux. Une infirmière, en début de carrière, touche 10% de moins que le salaire moyen d'un Français. C'est inadmissible. Il faut augmenter les salaires des soignants. Il faut revenir à un niveau correct de rémunération. Par ailleurs, nous revendiquons aussi le paiement des heures supplémentaires, puisque par faute de personnel, le personnel hospitalier... fait énormément d'heures supplémentaires. Celles-ci ne sont pas payées.
Reportage.
Rassemblement des personnels soignants de l'hôpital de Douai le mardi 16 juin devant l'hôpital de Douai. Venus les soutenir, Alain Brunel, député communiste de la circonscription de Douai.
Une mobilisation, elle est toujours utile parce que c'est d'abord témoigner que nous sommes là. Nous sommes toujours organisés et rassemblés pour dire, depuis 2 ans on manifeste, depuis 2 ans on exprime nos revendications et nos besoins, et depuis 2 ans vous ne nous écoutez pas.
Quelles sont aujourd'hui ces revendications principales ?
Les revendications principales, c'est d'une part revalorisation des salaires. Les soignants réclament au moins 300 euros par mois supplémentaires, puisque nous sommes un des pays les moins payés ici par rapport à l'OCDE. Et puis après, c'est aussi plus de moyens matériels et humains qui ont manqué cruellement pendant le Covid-19.
On a entendu dire que les enseignements seraient tirés de cette crise. Vous faites confiance, moyennement confiance, le parlementaire que vous êtes ?
Je ne fais pas du tout confiance parce que je sors de l'Assemblée hier après-midi, donc je suis rentré que ce matin. Là, on parle beaucoup plus de la dette sociale et on ne parle pas de l'argent qu'on va mettre dans la santé. Alors, la santé, le Covid-19 a au moins témoigné d'une solidarité, mais aussi témoigné de dire quand la santé elle est bouleversée et touchée, il n'y a plus d'économie. L'État va mettre 500 milliards pour redresser l'économie, 0 centime pour la santé. Chercher l'erreur, c'est quand même dramatique.
Qu'est-ce qu'il faut revoir dans le fond ? C'est le fonctionnement, c'est l'enveloppe globale, c'est l'ONDAM qui c'est tout ce mode de fonctionnement, de financement de l'hôpital qui ne correspond plus à ce dont on a besoin aujourd'hui ?
Il faut tout remettre à plat. Il faut tout remettre à zéro, abroger l'ensemble des lois en disant on redémarre tout à fait à zéro, on met tout sur la table, on discute véritablement de ce qu'il faut comme moyen. On a dit partout qu'il y avait une intelligence, une dynamique intelligence collective qui s'était exprimée pendant notamment le Covid-19 et qui a été de la dame de service jusqu'au chef de pôle en passant par les infirmiers, les aides-soignantes et infirmières. Donc il y a eu cette solidarité qui s'est bien exprimée. On a dit que c'était des génies parce qu'ils ont fait aussi les surblouses. Ils ont dû chercher leurs masques. Ils ont dû aussi inventer notamment des lits. Ils ont dû aussi aller chercher donc des appareils de réanimation. Là, on dit que c'est des génies. Mais maintenant, on dit on n'a plus besoin de vous. Laissez, nous on va faire pour vous.
Augmenter les salaires, davantage de personnel, ça fait pas beaucoup de choses tout ça ?
Non, pas du tout, c'est pas beaucoup de choses. Quand on dépense 500 milliards pour l'économie, c'est rien du tout. Vous savez que pour embaucher 100 000 personnes dans l'hôpital public, c'est 4 milliards par an. À un salaire de 1800-1900. C'est pas énorme quand on réfléchit bien, donc rien du tout. Donc je pense que la santé, il faut taxer les plus riches surtout, c'est ça.
Mais quand on finance quand même l'économie, c'est parce que les gens vont cotiser ensuite et vont pouvoir payer également ce que coûte l'hôpital public.
Oui, mais on a besoin, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est ni après-demain, c'est maintenant qu'on a besoin aujourd'hui de renforcer les hôpitaux parce que le personnel est épuisé. Le personnel, il n'en peut plus. S'il y avait un deuxième pic maintenant, je ne suis même pas sûr qu'on arriverait à pouvoir soigner tout le monde. Donc c'est ça. L'important aujourd'hui, c'est qu'on mette sur la table en disant on va mettre autant de milliards pour embaucher du personnel et pour des moyens.
La situation à Douai, comment vous regardez ? C'est un hôpital en quoi on peut retenir le cas spécifique de Douai ?
Bah, le cas spécifique de Douai, je dirais qu'il n'y a pas de cas spécifique parce qu'il est à l'image de l'ensemble des hôpitaux. Un hôpital qui est en détresse, un hôpital qui manifeste régulièrement, un hôpital qui dit « nous, on n'en peut plus ». Il y a un hôpital, comme l'ensemble des hôpitaux, qui exprime aussi cette solidarité puisque la solidarité qui est exprimée, c'est de dire « aujourd'hui, grâce au personnel, tout fonctionne ». Et le Covid-19, pour lutter contre le Covid-19, si on n'avait pas eu ce personnel extraordinaire, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui.
La direction aujourd'hui entreprend quand même un grand travail de titularisation, de CDIsation des personnels. Ça va dans le bon sens ?
Bah oui, si on titularise le personnel, évidemment ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut qu'effectivement qu'on mette sur la table et qu'on décline. C'était un peu le projet de loi que j'ai déposé il y a quelque temps sur l'idée d'un moratoire. Voilà. Et ici, je redépose un projet de loi qui va passer le 18 juin. Donc c'est l'appel des députés communistes sur une loi de programmation. C'est-à-dire qu'il y a un article unique en disant qu'est-ce qu'on va faire tout de suite d'ici le 31 décembre 2020 et les années qui viennent pour 5 ans, comment on va faire et comment on va réviser tous les ans ce qui manque, ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé. Ça change. Parce qu'avant, on discute du budget du PLFSS, donc du projet de loi de financement de sécurité sociale. Ici, on va faire une loi de programmation et c'est le PLFSS qui va devoir s'adapter. Tout à fait différent. On n'est plus dans une logique comptable, on est dans une logique de besoin de personnel.
Ce projet de loi de finances des dépenses sociales, il peut se faire sans sacrifier d'autres pans, justement en disant si on met ça là-dessus, on ne pourra plus financer autre chose.
Bah non, parce qu'il faut qu'on trouve l'argent, si vous voulez. Quand on parle de manque de moyens financiers, on sait que, par exemple, si il y avait l'égalité des salaires hommes-femmes, ça ferait 6,5 milliards en plus. Si aujourd'hui, on met les moyens pour chasser ceux qui fraudent la cotisation sociale, on gagnerait de l'argent, c'est 25 milliards. Bon, il y a toute une série de moyens. Et en même temps, si on embauche du personnel, bien évidemment, il y aura aussi des moyens au niveau de la sécurité sociale. C'est pas du tout cette réflexion, c'est pas du tout cette logique. Donc, il faut changer de la logique. Il faut se dire comment on va faire aujourd'hui au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, prendre tous les moyens nécessaires, y compris budgétaires, pour pouvoir aider l'hôpital. Parce qu'il y a un engagement qui est fait du chef de l'État, un engagement du ministre, on attend des résultats.
Et enfin, dernière question, quand vous dites on a des soucis immédiats, vous dites qu'il faut une réforme profonde, on ne peut pas réformer profondément, instantanément?
Non, on ne peut pas instantanément, mais ça se prépare. Quand nous, on parle d'une loi de programmation, par exemple, ça veut dire que la première année, qu'est-ce qu'on va faire pour l'hôpital public? La deuxième année, qu'est-ce qu'on va faire également? Quand je parle hôpital, je parle aussi EHPAD. Mais alors, on doit réfléchir aussi, quels sont les hôpitaux de demain? Comment on va travailler au niveau de la santé, en amont et en aval?
Des pôles spécialisés, une autre tarification que la tarification à l'acte?
Il faut la supprimer, la tarification à l'acte. C'est complètement supprimé. Il faut revenir notamment à un besoin de matériel de lits. Par exemple, avant, on finançait par la capacité d'accueil pour les hôpitaux. Autant de lits, il y avait autant de financement. C'était les dotations qui étaient données. Après, on a dit, ben non, on va plutôt faire marchand, on va faire la tarification à l'acte. Et à partir de la tarification à l'acte, effectivement, on soigne plus on soigne encore les patients. Mais par exemple, quelqu'un qui va faire un scanner, va faire un scanner une première fois pour la hanche gauche et une deuxième fois pour la hanche droite. Donc ça, tout ça, ça coûte. C'est pas ça, il faut réviser tout ça. Il faut arrêter d'être dans le système marchand, mais dans le système humain.
Manifestation des personnels soignants des hôpitaux du Douaisis le mardi 16 juin. Un reportage de Jérôme Bailly et Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensé.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.